Plan large, le nouveau rendez-vous cinéma, Antoine Guillot.
Plan large aujourd'hui sur de beaux héros, héros de la liberté d'expression, de l'émancipation la plus quotidienne et du dessin animé. On parle ce samedi de Jafar Panahi, de Willy Ier, de Mickey Mouse et même de Pierre et Tex. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Plan Large, l'émission cinéma de France Culture, au programme toujours plus éclectique et souterrainement cohérent. Dans quelques instants, nous irons visiter l'exposition Images Nuages au Centre Pompidou à Paris, dans le cadre de la rétrospective quasi intégrale que l'institution consacre au cinéaste iranien Jafar Panahi, que le régime des Mollahs tente vainement de réduire au silence depuis déjà 6 ans. Nous serons en compagnie de sa fille Solmaz Panahi, de son collaborateur Pouya Abassian et du critique Jean-Michel Frodon, à l'origine de l'événement et co-auteur du livre qui en tient lieu de catalogue. Ils seront 3 également, mais ils auraient pu être une de plus, Ludovic Boukerma, Zoran Boukerma et Hugo P. Thomas, pour nous parler du film qu'ils ont réalisé, co-réalisé, Willy Ier, sorti mercredi dernier, après avoir fait les belles heures de quelques festivals, dont la sélection acide au dernier festival de Cannes. Enfin, alors que c'est ouvert il y a 8 jours au musée Art Ludique, la riche exposition, l'art des studios d'animation Walt Disney, le mouvement par nature, vous saurez tout en fin d'émission sur la face cachée de Mickey Mouse. Pas de révélation scabreuse ou de scoop politique, non, mais une analyse fine, précise et très cinématographique opérée par Clément Safra. C'est dans un livre publié chez Vendémiaire. Mais je l'ai dit, il y a aussi Pierre et Tex. Je l'ai annoncé samedi dernier. Nous étions à Lyon, le merveilleux homme qu'il était mort le 14 octobre. Il était clown, il était magicien, il était un formidable dessinateur, un grand affichiste et un extraordinaire comédien, réalisateur de chefs-d'œuvre du burlesque dans l'héritage croisé de Buster Keaton et de Max Linder. Je vous le rappelle, Le Soupirant, Yo-Yo, Tant qu'on a la santé, Le Grand Amour et puis ce documentaire, Le Pays de Cocagne, documentaire très acide mais aussi très tendre, on n'a sans doute pas su le voir à l'époque, sur la France des congés payés. Il était venu nous voir, Pierre et Tex, avec Arnaud Laporte, à Tout arrive, le 6 juillet 2010. Il nous avait raconté ses débuts, comment il avait commencé au cinéma avec Jacques Tati, à qui il avait fourni des dessins, des gags et puis beaucoup d'autres choses, encore pour Mon Oncle. Il nous avait parlé aussi de sa joie d'avoir pu enfin récupérer les droits sur ses films après plus de 10 ans de combats juridiques, permettant ainsi aux spectateurs de revoir et le plus souvent de découvrir ses films. Et nous avions surtout envie de réentendre sa si douce voix, Pierre et Tex.
C'est ça aussi qui fait le charme de la vie, c'est quand on fait les choses que l'on aime. Et toutes ces choses m'ont conduite au cinéma. Je ne savais pas que je ferais du cinéma un jour, et je ne l'ai su que très tard, même après avoir travaillé avec Tati, qui m'a tout appris du cinéma, du langage cinématographique, car je ne savais rien lorsque je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré pour faire du cirque. Et finalement, ce qui est merveilleux, c'est que je m'aperçois au cours du temps que tout sert à tout, et que rien n'est superficiel, et que chaque fois qu'on m'a dit « mais vous avez papillonné, vous êtes... » C'est vrai que je n'ai fait que des choses approximatives, y compris dans le cinéma. Je n'ai jamais pu m'accomplir comme s'accomplit un concertiste qui fait 12 heures de piano par jour, ou 11 heures, avant de pouvoir exécuter un concert. Mais néanmoins, il faut savoir se satisfaire au moment où on fait les choses, savoir que de faire ce que l'on aime est la chose la plus importante. C'est seulement ça qu'on peut partager avec un public. Car rien n'est plus précieux que de cet échange. On a une idée à laquelle on s'attache et à laquelle on croit. On veut avoir le contact avec le public. Et c'est ça qui est formidable, c'est que le public vous apprend tout. Certains jours, vous vous tapez un bide sur une idée qui vous est chère. Alors, vous remettez en question, mais alors comment se fait-il que ça ne marche pas? Et vous finissez par trouver au cours du temps. Mais ça ne se trouve pas en un jour. Et c'est ce merveilleux et long apprentissage qui fait que on s'accroche à ce que l'on fait et qu'on a envie de le partager avec d'autres. Moi, je sais qu'à une époque où j'ai commencé, pour être drôle, je voulais avoir des vêtements trop grands et je m'imaginais que le comique allait résider dans le fait que le pantalon était en accordéon, la veste trop large, etc. etc. Et un jour, c'était le directeur du cabaret du Cheval d'Or qui était Jean-Pierre Suc, un merveilleux auteur-compositeur et dont ce n'était pas le métier de faire du comique, mais qui me suggère et qui me dit, mais écoute, réfléchis deux secondes, s'il arrivait à Tino Rossi, tout ce qui t'arrive sur scène. Et je me suis imaginé Tino Rossi en smoking et mettant le pied sur un barreau d'une chaise qui craque. Je me suis dit, mais c'est fabuleux. Et c'est là que je me suis commandé un smoking. Et à partir de ce jour-là, tout a changé et c'était si peu de choses. Mais en fait, j'ai trouvé là un personnage, enfin je l'ai trouvé, il s'est imposé. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu le même naturel que j'avais antérieurement, mais l'apparence était différente. C'est-à-dire que le comique exige que justement un personnage apparaisse alors qu'un comédien incarne plusieurs personnages. Tandis qu'un comique qui est issu justement de la comédie clownesque ne peut être que sa propre caricature.
Ce doit être un terrible métier que celui qui consiste à faire rire les honnêtes gens.
C'est pas si facile de faire des films rigolos. Clémence Affray, vous voyez opiner du chef sur la description du comique par Pierre Etex.
Ce que je trouve d'abord très très touchant en fait dans cette intervention là, en plus d'entendre sa voix à nouveau, c'est la modestie en fait de la démarche et l'idée quand même sur laquelle il insiste, que on ne fait pas une œuvre, c'est-à-dire que c'est un parcours fait de découvertes, de tâtonnements, d'expérimentations, et cette grande humilité là en fait, je trouve, insiste, et c'est nécessaire je pense aujourd'hui dans la création notamment cinématographique, sur la démarche, beaucoup plus que sur l'objet idéal visé. Et ça c'est très touchant. Ensuite, l'aspect burlesque, le personnage de comédie, c'est quelque chose qui tout de suite, évidemment, m'a fait penser. Donc, par exemple, à Mickey, justement, puisqu'il insiste, Pierre Etex, sur l'aspect visuel, en fait, hein, du héros de comédie, qui doit s'imposer à l'image et qui, en cela, est donc très, très cinématographique, forcément.
On va y revenir tout à l'heure. Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma, Hugo P. Thomas, vous auriez pu rencontrer Pierre Etex. Il était le président du festival de Groland quand votre film Willy Premier y était présenté. Alors, il a vu votre film, mais pour raison de santé, il n'a pas pu venir. Il a fait un film, mais je crois que sa dernière apparition vidéo a été pendant le festival.
Oui, il a fait une vidéo dans laquelle il parlait de Willy Premier avec beaucoup de tendresse, depuis sa chambre d'hôpital. Et c'est vrai que nous, on se faisait une joie de le rencontrer et il n'a pas pu venir. Et donc forcément, sa disparition nous a affecté tout particulièrement.
Voilà, Pierre Etex, grand hommage, on l'aimait infiniment. Il est mort donc le 14 octobre à l'âge de 87 ans. Il est toujours bien vivant aussi, puisqu'on peut revoir tous ses films grâce au DVD. C'est édité chez Arte. En revanche, pas besoin de DVD en ce moment pour voir ou revoir les films de Jafar Panahi, rappelons-le, le plus grand cinéaste iranien vivant depuis que son mentor Abbas Kiarostami nous a quittés cet été. Le Centre Pompidou lui consacre une rétrospective quasi intégrale, tous ses courts-métrages inédits en France, tous ou presque, et bien sûr ces 8 longs métrages, dont seul le premier, Le Ballon Blanc, qui avait eu la caméra d'or à Cannes, seul ce film a été autorisé à sortir en Iran. Il faut dire que les suivants, comme Le Cercle, Le Sang et Or, ou encore Hors-jeu, étaient autant d'attaques frontales de tous les problèmes de la société iranienne. Rappelons-le, Jafar Panahi a été condamné en 2010 à 6 ans de prison, non effectués, mais qui peuvent lui tomber dessus à tout moment, et aussi et surtout à 20 ans d'interdiction d'exercer son métier de cinéaste, tout ça à cause de sa participation aux manifestations contre la réélection du président Ahmadinejad en 2009. Depuis, Jafar Panahi n'a eu de cesse de jouer avec la censure. Il a tourné encore 3 films. Ceci n'est pas un film, Pardé, un film qui est inédit en France mais qu'on peut voir à Beaubourg, et puis Taxi Téhéran, Ours d'or au Festival de Berlin. Depuis, il a aussi répondu à la commande du Centre Pompidou en réalisant un nouvel épisode de la série Où en êtes-vous ? Et quand il ne tourne pas, Jafar Panahi, il prend des photos photos de nuages exposées au Centre Pompidou, le Centre Pompidou qui vient d'acquérir ces photos pour ses collections. C'est entre la projection de ce nouveau grand petit film et ses photographies que nous avons évoqué Jafar Panahi avec sa fille Solmaz, son collaborateur Pouya Abassian et le critique Jean-Michel Frodon qui est à l'origine de cette manifestation et également co-auteur avec Clément Chérou du livre Jafar Panahi, Images, Nuages.
Qui est là, c'est
Andishar.
C'est ton rouge à soi.
Pas ta voûte. Félix, dégueu. Nazi, bœuf. L'Aftanarique, le Samy.
Solmaz Panahi, Pouya Abassian, Jean-Michel Frodon, nous sommes dans l'entrée de l'exposition Jafar Panahi, Images, Nuages, au Centre Pompidou. Nous sommes entre des photos dont nous allons parler et un film qui est projeté, un film qui a été commandé par le Centre Pompidou. Où en êtes-vous, Jafar Panahi? Et je voudrais vous poser la question aussi, Jafar Panahi répond avec son film, mais comment va Jafar Panahi en ce moment, et comment est-ce qu'il ressent ce qui se passe ici à Paris, au Centre Pompidou?
Il est bien, il est en Iran, il est toujours en train d'écrire le scénario, faire photographie, ou je ne sais pas, faire un film avec son portable ou petite caméra. Malheureusement, il n'est pas ici aujourd'hui, mais on a fait le film, on a fait toutes les choses par photo, comme ça. On a envoyé pour Jafar, c'est chaque heure, je sais pas, chaque jour, on a parlé avec Jafar, on a dit toutes les choses. Et les gens, s'ils sont envoyés un texte pour Jafar, on va transférer pour Jafar, mais... Je sais que vraiment il adore qu'il a venir ici, mais on a.
Mais ça suffit pas, c'est une sorte de frustration que c'est quand on fait ça, quand on continue de faire ça, faire des Skype, le faire rentrer dans une sorte de créer virtuellement Jafar ici, mais ça marche pas assez bien, c'est assez frustrant et après c'est paradoxal pour lui aussi, parfois il a envie d'être ici. Parfois, il voit que ça marche pas très bien, c'est frustrant. Il dit qu'on laisse tomber, on fait ça plus tard, tu me diras. Mais surtout, on peut dire qu'après Taxi Tehran, il a beaucoup d'énergie. Là, il vient de me dire qu'après Taxi, il a fini 3 scénarios. Donc ça, c'est assez génial pour lui. Il n'arrive pas à arrêter de travailler. Bon, en attendant, pour trouver une façon de les faire, peut-être.
Vous l'avez dit, paradoxe, quand on lit le livre d'entretien Jean-Michel Frodon que vous avez publié à l'occasion de l'exposition, Images Nuages avec Clément Chérou, il raconte lui-même que toutes les récompenses qu'il a reçues, Ours d'or pour Taxi Téhéran, enfin tous ces films ont été présentés dans les grands festivals internationaux et que finalement ces récompenses, au lieu de le protéger, ont plutôt aggravé sa situation en faisant de lui, aux yeux du pouvoir à Téhéran, un agent de l'étranger, puisque c'est bien la preuve, c'est qu'il était récompensé dans des festivals occidentaux. Est-ce que cette exposition, l'hommage qui lui est rendu au Centre Pompidou à Paris, peut changer dans un sens ou dans l'autre sa situation actuelle?
Il y a à la fois une reconnaissance qui compte en Iran, et d'autant plus, je dirais, que le Centre Pompidou est une institution connue et reconnue en Iran, dans le milieu artistique et culturel, mais aussi politique, et qu'en même temps, ça peut aussi se retourner contre lui. Mais on pourrait dire que, d'une certaine manière, il marche sur cette ligne d'incertitude depuis très longtemps. Déjà, avant même les ennuis avec la justice, il avait eu des attaques comme d'autres. Ce n'est pas que Jafar Panahi, et il raconte d'ailleurs dans l'entretien ou dans le film qui est présenté ici ce qui était arrivé à Kiarostami quand il avait reçu la Palme d'Or à Cannes. Donc il y a ce risque que ça soit utilisé contre lui, en même temps que c'est aussi quand même une manière d'affirmer que c'est une personnalité importante et ça peut aussi le protéger. Je crois qu'il y a les deux dimensions.
خودت بری من واقعا برام سخته یه چند باری اومدم همینجا واسادم
واقعا؟
آره اصلا این مسئله این نیست مسئله واسه پدرم یا خواهرم هم هر وقت بخوام برم گورستان نمیتونم داخل برم فکر میکنم وقتی میری اون تو یعنی پذیرفتی که اینا رفتن حقیقت اینه که اینا رفتن، ولی واقعیت اینه که من دلم میخواد همش واسم زنده بمونن، یعنی حس نکنم که برم. اینه که تو برو، من اینجا با میستم. اصلا به خاطر همینم واقعا گفتم که بهت بیا برو عزیزم.
پس من میرم.
Alors dans ce film, où en êtes-vous, Jafar Panahi, commande du centre Pompidou. On est dans un dispositif assez proche de Taxi Téhéran. Jafar Panahi, là, n'est pas chauffeur de taxi, il est vraiment Jafar Panahi dans sa voiture. Et il se rend avec un ami cinéaste sur la tombe de Kiarostami. Évidemment, en France, grand émoi à la mort de Kiarostami, mais... Pour Jafar Panahi, qui a commencé avec lui, qui a été son assistant, qui avait réalisé le Ballon Blanc sur un scénario de Kiarostami, qu'est-ce qu'a représenté cette disparition ?
Bien sûr, c'est très très difficile pour Jafar, parce que M. Kiarostami, c'est comme un professeur pour Jafar, c'est comme un père pour Jafar aussi. Il adore le travail de Kiarostami, c'est très clair, vous pouvez regarder dans le titre de film, il y a quelques références de M. Kiarostami, même le dernier court-métrage qu'il a fait pour Centre Pompidou. Mais je pense maintenant, ce n'est pas très, très facile pour parler sur Kiarostami avec Jafar. Il a décidé pour le... pensez pas que M. Kiarostami aujourd'hui n'est pas avec nous. Il gardait Monsieur Kiarostami, c'est comme un personnage qu'il vivra toujours pour Jafar et pour le cinéma iranien.
Et au final, c'est même ce film, c'est une sorte de, encore un autre hommage à Kiarostami que Jafar a fait. Si le sujet c'était pas Kiarostami, il n'arrivait pas à le faire, c'était pas possible pour lui. C'est un commande. Quand il a une commande, il est stressé, il n'arrive pas à le faire. Il disait tout le temps, oh, je ne sais pas, franchement, on peut faire autre chose. Ou je sais pas, tout. Après, on disait, non, c'est obligé, c'est une partie d'exposition, il faut que tu fasses ça. Et au final, il ne trouvait pas, il dit, oh non, j'aime pas te parler de moi. Et tous les films des autres, c'est les réalisateurs, ils viennent parler de leurs autres, et j'aime pas le faire ça. Donc, en gros, on voit qu'il a perdu Kiarostami, mais il a transformé ça pour un court-métrage. Pourtant, c'était pas facile pour lui. Et comme le directeur de centre, il a dit le jour de remissage, Jafar, c'est une sorte d'héritage de Kiarostami pour nous. Donc, je sais pas, il le sent aussi ou pas, mais il y a beaucoup de gens qui le regardent comme ça.
Alors, Jafar Panahi tourne beaucoup, mais il fait aussi des photographies. Ce qu'on va aller voir, c'est photographies de nuages qui sont présentées ici. Pourquoi est-ce que Jafar Panahi photographie des nuages ? Jean-Michel Frodon, quand il vous a montré ces photos, quand vous êtes venu le voir à Téhéran, qu'est-ce qu'il vous a expliqué de sa démarche ?
Alors, j'étais chez lui, c'était Noël 2014, et à la fin du dîner, il a déroulé de très grands formats donc de photographies qui étaient des nuages, et ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'au moment de l'interdiction la plus violente de filmer, puisqu'il est condamné à une interdiction de filmer que nous... Comme nous le savons, il a contourné depuis, mais il y avait un moment où c'était vraiment impossible, et où, enfermé chez lui, il a commencé à regarder le ciel de sa fenêtre et à faire des photos. Toutes ces photos ne sont pas prises de sa fenêtre, forcément, mais le point de départ, c'est vraiment une sorte d'échappée de quelqu'un qui est dans une situation de proscrit, dans une situation de contrainte extrême, d'un artiste qui n'a plus le droit d'exercer son travail, et qui trouve cette sorte d'échappée par la fenêtre, en regardant le ciel. Après, il y a un véritable travail de photographe, une recherche plastique, il me semble aussi une dramaturgie, hein. Ça raconte des choses autant que ça ben
voilà, parce que
fait une proposition
on formelle. On a cette frise de photographie qu'il faut lire certainement, mais comme c'est, ça vient d'Iran, on imagine qu'il faut la lire de droite à gauche et non pas de gauche à droite, où on a une première photo très obscure, où la lune... Le soleil, on ne saurait trop dire, tellement il est pâle et caché derrière des nuages très sombres. Et puis, plus on avance sur la droite, plus tout cela s'éclaircit, blanchit. C'est comme... et Jafar Panahi, j'imagine, accroche ses photographies en cinéaste. C'est un fondu au blanc.
Au début, l'idée, c'était de commencer par les plus clairs et finir dans le noir. Mais dernier moment, il a décidé que oh, ok, on finit en blanc, on finit avec l'éclair. Donc c'est comme Jafar, c'est comme on voit dans ce n'est pas un film par des taxis Terrans, c'est comme lui. Ceci n'est pas un film, il était perdu, il ne savait pas ce qui arrivait. Pardé, c'est le moment de dépression, il est descendu, c'est hyper sombre. Il a compris la vérité, qu'il ne va pas faire des films comme avant. Et Taxi Terran, on voit bien qu'il sort de son univers sombre, de sa dépression, et il continue à faire son chemin comme avant. Et même pour l'accrochage, c'était de finir en blanc. Je pense que c'est une sorte de montrer qu'il y a de l'espoir toujours, et il va continuer à faire ce truc.
C'est ce qu'on espère aussi.
Oui.
Merci beaucoup.
La rétrospective et l'exposition Jafar Panahi au Centre Pompidou, c'est jusqu'au 13 novembre. Et puis, si vous êtes parisien, dès que vous avez fini d'écouter Plan Large, filez au sous-sol de Beaubourg dans la petite salle à 17h aujourd'hui. Jafar Panahi sera là, sur écran, en tout cas, pour une rencontre virtuelle, un dialogue à distance et évidemment à ne pas manquer.
Plan Large, sur France Culture, avec Antoine Guillot.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance.
Ludovic Boukerma, Zoran Boukerma, Hugo P. Thomas, vous êtes trois seulement des quatre co-réalisateurs. Mireille Gauthier ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Pardon ?
Marielle.
Oui, j'ai dit Muriel, Marielle.
J'ai dit Mireille.
Oh là là, c'est la chanson qui me fait ça. Marielle Gauthier est pas aujourd'hui avec nous. Vous êtes donc les co-réalisateurs de Willy Premier. Vous êtes connus tous les quatre à l'école de la Cité, l'école de Luc Besson. Vous faites partie de la toute première promotion en 2012. On peut dire que vous avez essuyé les plâtres de l'école. Alors on connaissait évidemment les duos de réalisateurs, les fratries, mais alors les quatuors, ça doit être une première, autant que je sache. Comment est-ce qu'on décide et à quel moment de se mettre à quatre pour faire des films?
Je pense que nous, on a vraiment appris à faire des films ensemble. Avant, on ne savait pas. Et c'est vrai qu'à l'école, on s'est construit des envies et une certaine vision du cinéma à notre échelle ensemble. Et ensuite, il y a eu la rencontre avec Daniel, qu'on a rencontré.
Daniel Vanet, on va y
trois,
arriver.
Qu'on a rencontré Zoran, Hugo et moi quand on a fait un de nos courts-métrages, Perrault la fontaine de mon cul, qui était un film qui parlait d'illettrisme. Et pendant qu'on écrivait ce court-métrage, on s'est pas mal documenté et on est tombé sur un documentaire qui suivait Daniel, en fait, qui apprenait à lire. Et on s'est inspiré de lui en écrivant ce court-métrage et on s'est demandé quel acteur pourrait dégager ce que dégageait Daniel à notre sens. Et on a fini par décider de le contacter lui directement. Et donc voilà, on s'est vraiment retrouvés tous autour de Daniel et c'est comme ça qu'on a...
Donc c'est lui qui vous a rassemblé d'une...
C'est lui qui nous a rassemblés.
D'une certaine manière, mais est-ce que vous aviez aussi des goûts cinématographiques communs, une façon commune de voir le cinéma, ou finalement vous avez fait une sorte, je dirais pas de compromis, mais quelque chose de nouveau est sorti de vous quatre?
Au début, on s'est retrouvés autour de goûts communs, mais ce qui est marrant, c'est que vraiment, comme on s'est rencontrés assez jeunes, on a forgé nos goûts aussi ensemble, c'est ça, et je pense qu'il nous a permis de nous entendre à quatre sur un film.
Alors, une question toute bête aussi, mais à laquelle généralement même les duos de réalisateurs refusent de répondre. Qui fait quoi? Comment ça se passe? Est-ce que vous discutez longuement pour vous mettre d'accord sur un scénario, un découpage, une façon de diriger? Est-ce qu'il y en a un qui se fait le porte-parole des autres? Comment ça se passe?
C'est-à-dire qu'en fait, on a décidé de pas se diviser les tâches, ce qui ne simplifie pas forcément la chose, mais donc en fait, on débat énormément. Donc chaque étape en fait est extrêmement démocratique, de l'écriture jusqu'au montage du film. C'est-à-dire que pour l'écriture, on est tous les quatre enfermés ensemble toute la journée et on débat des heures et on est tous les quatre derrière l'ordinateur. Et c'est pareil sur le tournage, c'est-à-dire qu'on est tous les quatre, on discute à chaque fois de chaque décision à prendre. Donc on a essayé par moment d'envoyer un porte-parole, de dire voilà toi aujourd'hui Hugo ou Marielle ou Ludovic, c'est toi qui vas parler à l'équipe aujourd'hui, mais ça n'a jamais marché parce qu'on avait toujours, chacun avait envie d'ajouter son petit grain de sel systématiquement. Donc oui, notre travail est assez... Donc on débat énormément, voilà.
Et on a vraiment l'impression que de la discussion, c'est de là que vont sortir les évidences et les vraies bonnes idées. On a l'impression que, voilà, en parlant des heures, c'est là que les bons choix vont se faire. Alors ça peut être sur des choses très importantes, comme est-ce qu'un personnage doit mourir ou rester en vie, ou alors vraiment des choses... qui paraissent insignifiantes, et du coup ça évidemment sur le plateau ça peut rendre fou les techniciens, mais ouais, c'est comme ça qu'on fonctionne.
Et c'est ce qu'on peut appeler du cinéma démocratique.
Exactement.
J'aime bien ma vie, j'aime bien mes enfants, j'aime bien mon métier, j'aime bien mon appartement. C'est un hype de guerre, Spinoza, Schopenhauer, la philosophie, la philologie, les belles lettres, les grands principes, la tolérance, la culture, la gauche, ma femme, tout. J'aime bien vivre, j'aime bien les anniversaires, j'aime bien enseigner, apprendre aux autres, transmettre le savoir.
Alors, est-ce que quelqu'un sait me dire dans quel mot il y a la lettre U, mais pas le son U ? François ?
Je sais pas.
T'as pas une petite idée ? T'as levé la main ?
Non.
Non ? Bon, Willy, alors.
Le dernier mot.
Le dernier mot, très bien. Très, très bien. Est-ce que tu peux me le lire ?
Chameau.
Il y a juste une lettre que t'as mal lue. Est-ce que tu sais me dire quelle lettre c'est ?
Le O.
La dis ça au pif.
Lis la phrase en entier, ça va peut-être aider.
J'ai perdu mon chameau. C'est bon ? J'ai gagné l'image ?
Voilà, deux extraits de vos courts-métrages précédents, Ich bin eine Tata et Perrault la fontaine mon cul, deux films qui avaient fait sensation au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand en 2015. On entend ici l'humour si particulier de vos films, entre à la fois grinçant et tendre, et où on passe sans arrêt d'une émotion à l'autre. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, tout cela doit beaucoup à Daniel Vanet, c'est lui qu'on a entendu, à l'ironie, à l'humour qu'il peut avoir par rapport à lui-même. Comment est-ce que vous travaillez à la fois ces rôles et ces personnages avec lui? Vous l'avez dit, vous l'avez rencontré dans le cadre de la préparation de ce film Perrault la fontaine mon cul.
À la fois on s'inspire de lui, et à la fois ce qui nous intéresse c'est de l'amener à des endroits qu'il connaît pas et où il irait jamais dans sa vie, puisque c'est quelqu'un de très calme et de très qui a vraiment la tête sur les épaules, les pieds sur terre, etc. Donc on s'inspire de son phrasé, des expressions qu'il peut nous apporter, qu'on connaît pas et qui sont souvent drôles, et en même temps on lui fait faire des choses qui ferait pas dans la vie. Par exemple, voilà, dans Ich bin eine Tata, il jouait un prof de techno qui se travestit la nuit, et c'est là qu'il est encore plus drôle.
Oui, vous opinez, Ludovic Boukerma, Zoran Boukerma.
Non, c'est-à-dire que oui, dans le premier court-métrage, Perrault la fontaine mon cul, on avait été assez proche de ce que Daniel pouvait nous inspirer, en tout cas ce qu'il a dégagé de prime abord quand on l'a rencontré, c'est-à-dire quelqu'un d'à la fois tendre et en même temps avec une petite défaillance quelque part. Et sur le second court-métrage, justement, on avait envie d'aller au-delà de cette façon de le mettre en scène, et on avait envie de lui faire jouer un rôle de composition qui était assez éloigné de lui. Donc il joue un prof de techno, ce qu'il n'est pas, et on trouvait le décalage entre sa façon de parler et les mots qui sont censés être ceux d'un professeur assez intéressant.
Ce qui est intéressant, c'est que même si on le fait jouer des choses très éloignées de ce qu'il est, il gardera toujours son phrasé à lui. Donc, par exemple,
il y a un plaisir de la langue, voilà, chez vous. On l'a entendu dans cet extrait. Vous travaillez beaucoup cette langue, quitte à ce que parfois le public ça ne dénote. Comprenne pas forcément ce qui se dit, mais il y a une musicalité de cette langue.
Oui, c'est le cas d'ailleurs même pour les autres comédiens dans le long métrage, puisqu'on a fait un film en Normandie. L'idée c'était de prendre des gens sur place. On n'a pas fait venir des, à l'exception de Milovski, mais qui elle interprétait une curatrice, donc il y avait quelque chose d'assez cohérent. Mais pour nous, les gens, de la façon dont on voulait représenter la ruralité, c'était avec des vrais gens qui vivent en Normandie, dans la campagne tous les jours, parce qu'ils nous apportent leur façon de parler. Alors nous, on écrit un texte qui est très précis quand on est à l'étape du scénario, mais sur le tournage, on donne pas le texte à nos comédiens et on les fait improviser. On leur donne en fait une trame de chaque séquence qui est une trame très précise. Et à partir de ça, on les fait improviser pour que justement ils apportent leur vie et leur façon de parler à notre idée, quoi.
Alors, par cette démarche, on vous a beaucoup rapproché dans la presse et pas plus tard que cette semaine à France Culture, puisque vous l'avez rencontré sur le plateau de ping-pong d'un Bruno Dumont. Vous vous sentez effectivement proche de cette démarche qui consiste à prendre des comédiens dits non professionnels. On pourrait discuter de cette question parce que Daniel Vanet me semble très professionnel dans son, dans son métier, un peu désocialisé, différent, on dira.
Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on a commencé à faire nos premiers courts-métrages, donc Perrault, la Française de mon cul, c'était il y a 2 ans, et on ignorait totalement le cinéma de Bruno Dumont, en fait. Et on a découvert, quelques jours après avoir fini de monter le film, on a découvert la bande-annonce à l'époque de Petit Quinquin.
D'ailleurs, c'est un moment où, justement, on avait une idée de long-métrage, où on se disait que ce serait bien de faire un polar avec des vaches qui meurent et quelque chose de très rural.
Et dommage, c'était déjà fait.
Et tout à coup, on voit la bande-annonce de Petit Quinquin. Je peux vous dire qu'on l'a maudit.
Et après, en fait, on a découvert le cinéma de Bruno Dumont après. Et il y a des similitudes dans la démarche de prendre des comédiens non professionnels, effectivement. Après, il y a aussi énormément de différences. C'est-à-dire que les premiers films de Bruno Dumont sont quand même assez noirs, assez durs. Et nous, on a systématiquement envie d'aller vers le comique quand même.
Oui, alors en fait, vous avez un peu mélangé les deux périodes de Bruno Dumont, la période tragique du début, la période burlesque qu'il fait actuellement, et vous passez sans arrêt de l'un à l'autre dans le film. Alors, il faut parler de Willy Premier. Willy Premier, vous affichez tout de suite la couleur par rapport à ce que vous racontez ici. Hein. Je cite le carton au début du film qui m'a fait un peu peur, je vous l'avoue. Ce film est librement inspiré de la vie de Daniel Vanet. Si certaines situations, événements et personnages sont fictifs, le courage de Daniel a été fidèlement restitué. Alors, en tant que spectateur, j'ai craint un peu le chantage à l'émotion, le label d'après une histoire vraie, le chantage au réel, comme on dit. Mais comme dès le plan d'après, on bascule tout de suite dans autre chose avec ces deux hommes au corps un peu lourd et fatigué, tous les deux joués par Daniel Vanet, qui urine par la fenêtre. Ce sont des jumeaux, Willy et Michel. Ils ont près de la cinquantaine, mais ils vivent encore à la ferme chez leurs parents. Et puis un jour, Michel se suicide. Il laisse Willy tout seul. Et c'est le moment pour Willy de prendre enfin la décision de sa vie. Il faut dire qu'on le comprend.
Vous avez foutu ma photo sur la tombe de Michel ? Mais vous êtes fous ? C'est un monde, ça !
C'est pas de photo de Michel, on n'en avait pas.
Eh ben, si vous n'avez pas de photo, vous n'en mettez pas, c'est tout. Point barre, ça y est.
Ah non, mais...
De toute façon, je suis pas mort, moi. Est-ce que je suis mort ? Moi, je suis pas mort.
Ah non, t'es pas mort.
Eh ben, j'ai pas la photo sur ma photo de moi, sur une tombe, que je suis encore là, je suis vivant.
Moi, j'ai des jumeaux. Alors donc, c'est pareil.
Attends, qu'est-ce que t'as, papa, dans la cervelle ? Eh, mais ça va pas, la tête.
Non, mais ça... On a mis cette photo-là parce qu'on n'avait pas d'autre.
Attention, papa, hein. C'est pas parce que Michel est mort que moi, je dois mourir aussi, hein. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. Michel, il s'est peut-être pendu, mais moi, je serai pas comme lui. À Côte-Bec, j'irai. Avoir un appartement, j'en aurai un. Un scooter, j'en aurai un. Des copains, j'en aurai, et vous emmerdez.
Si tu pars, tu reviens pas. Allez, c'est fini.
Voilà, des objectifs bien clairs qui seront autant de chapitres dans votre film, et c'est une véritable quête héroïque qui commence. C'est comme ça que vous avez conçu ce film, comme une sorte de quête héroïque, oui, vraiment, avec un certain nombre d'obstacles à vaincre.
Oui, et d'ailleurs, le carton que vous avez mentionné au début du film est une façon pour nous de détourner un peu ce procédé assez hollywoodien, ou en tout cas assez emphatique, qu'on peut voir en général dans les films. Et ce qu'on voulait, c'est donc nous, on s'est inspiré de cette phrase-là, donc qui est une phrase que Daniel nous a vraiment dit. C'est vrai, quand il raconte ce passage de sa vie, le moment où il a quitté sa famille, il dit tout le temps, il nous disait quand il nous racontait ça, j'ai dit à ma famille, à Aulnois j'irai, un appartement j'en aurai un scooter j'en aurai, des copains j'en aurai, et je vous emmerde. Et nous, on a repris cette phrase en fait pour écrire la trame du film, mais en même temps, c'est le film après reste une fiction autour de ça. Et pour nous, cette trame, c'est en même temps, c'est un prétexte, en fait, à... C'est vrai que Daniel, donc Willy dans le film, veut un scooter, il va avoir un travail, un appartement, mais c'est des... On évacue assez rapidement la façon dont il obtient ces choses-là. On va pas, on va pas le montrer économiser de l'argent pour s'acheter un scooter parce que c'est pas ça qui est intéressant.
Nous, c'est ce qu'on fait une fois qu'on a le scooter. C'est ça, intéressant. Voilà. Une fois qu'on a atteint l'objectif, voilà. Comment on se sent, quoi.
Pour nous, tout ça était un prétexte, en fait, pour montrer comment ce personnage-là, qui a vécu en autarcie avec ses parents pendant 50 ans, va gérer ses relations avec les autres et va apprendre à s'intégrer au sein d'un groupe, va toucher un peu à l'amour aussi avec sa curatrice, ou va, voilà, comment il va réussir à se construire dans son rapport avec les autres.
Et puis, un appartement, c'était, c'est acquérir l'autonomie, les copains c'est sociabiliser, et puis un scooter c'est avoir une certaine liberté, donc évidemment que ces petits accomplissements veulent dire bien autre chose.
Alors ce qui est très beau dedans, c'est que vous prenez très au sérieux la question du héros, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fabrique un héros dans le film, y compris aussi complexe qu'il puisse l'être, à la fois attendrissant par moments, inquiétant par d'autres, parce qu'on sent qu'à force d'humiliation, cette boule d'énergie est prête à exploser, mais vous le faites aussi de manière très cinématographique. Et moi, j'étais très, très surpris de la cohérence, quand je savais, une fois que j'ai compris que vous étiez quatre, de vos choix cinématographiques, que ce soit l'utilisation du plan large, très souvent pour l'inscrire dans ces paysages un peu tristes et dont vous allez faire aussi sortir la beauté, mais aussi en utilisant certains codes du film de genre, que ce soit de découper son corps quand il prépare son scooter, comme on montrait Rambo mettre ses rangers et affûter son couteau, ou l'utilisation du ralenti, du fondu enchaîné dans le genre film policier des années 70. Vous avez voulu jouer comme ça avec la matière cinématographique et le corps de Daniel Vanet?
Oui, c'est vrai qu'une de nos premières envies, dès le départ, dès la source du projet, ça a été de s'inspirer du parcours de Daniel, mais d'en faire un vrai film de cinéma et de pas faire un documentaire. Donc pour nous, c'est tous ces procédés que vous avez mentionnés ont permis justement de s'éloigner d'un naturalisme trop frontal. On avait vraiment envie de faire de Daniel un véritable héros de cinéma, et l'utilisation des ralentis, de la musique, qui sont des procédés qui étaient utilisés dans des films qui, à nous, quand on était enfants, nous ont donné envie de faire du cinéma, c'est-à-dire tous les films hollywoodiens des années 90, notamment. Nous, on a grandi avec le cinéma de Robert Zemeckis, de Steven Spielberg, et c'était des références qu'on avait envie de pouvoir assumer et les utiliser dans notre film, qui, a priori, est plutôt un film social. Ça permettait de faire du cinéma avec une histoire qui, a priori, n'était pas forcément... pouvait être plus documentaire, voilà.
Et tout ça nous est venu assez naturellement, parce que l'idée du projet, c'était... Elle est venue parce que on trouvait que le parcours de Daniel, sa vraie histoire, quand il nous l'a raconté, c'était vraiment l'histoire d'un héros. Faut savoir qu'il a, c'est vraiment quelqu'un qui, à 50 ans, est parti de chez lui alors qu'il habitait encore chez lui. Et en vrai, on a dû enlever des choses. Dans le film, on a dû enlever des choses parce qu'en vrai, il a arrêté de boire, arrêté de fumer, il a commencé à apprendre à lire. Tout ça d'un coup. On trouvait ça vraiment incroyable.
Vous allez pouvoir faire de nouveaux films racontant tout ça. Moi, ce qui me touche aussi beaucoup dans le film et qui est très, très casse-gueule, c'est votre façon d'être de plein pied avec une culture populaire à la fois graphique, qui est celle des, je pense notamment aux clips qui, en hommage aux frères décédés, comme on en trouve partout sur YouTube ou sur les karaokés, une façon d'utiliser la musique populaire sans jamais s'en moquer, mais en faisant état d'une culture vraiment de plein pied.
C'est vrai qu'on fait un film qui parle des classes populaires. Pour nous, c'est primordial dans notre cinéma que ce film puisse aussi être accessible aux classes populaires. On a envie d'arriver à faire un film d'auteur, mais qui en même temps puisse toucher un public large. Pour nous, c'est très important. Et même si on met des éléments de la culture populaire comme les vidéos YouTube ou de la variété un peu désuète, nous, ce qui nous importe, c'est d'arriver à tirer une émotion de ça. C'est pas de faire du voyeurisme ou de les mettre en avant ou de les exhiber comme ça. Par exemple, les vidéos, ce qu'on a remarqué, nous, sur YouTube, c'est que c'est des vidéos qu'on regarde et qui effectivement peuvent faire rire parce qu'il y a des fautes d'orthographe, parce que c'est monté sur Windows Movie Maker, enfin, c'est des montages amateurs, voilà. Mais en même temps, quand on regarde ces vidéos, il y a une vraie sincérité dedans, il y a une vraie émotion. Et pour nous, l'important, c'est d'arriver à rendre ça, justement.
Puis c'est des milieux dont on vient, donc on avait envie d'en parler, tous les trois. On a tous vécu notre enfance dans des milieux très ruraux, pardon. Et donc, ça nous semblait très naturel de restituer ce qu'on a vécu.
Et c'est souvent très touchant, parce que ce clip au début qu'on trouve improbable, c'est la durée même de ce qu'il raconte qui fait naître l'émotion chez le spectateur. Et alors, il y a même à un moment une musique de Walt Disney, j'ai entendu, When I Wish Upon a Star, le moment où vous montrez Willy avec des dauphins qui lui passent dessus. Alors transition un peu tordue avec ce qui va suivre, mais Mickey, Disney en général, ça fait partie aussi de votre culture?
Oui, on a grandi avec les films de
comme
Walt
tout
Disney,
le monde,
comme tout le monde.
Comme tout le monde, pas plus. Écoutez, vous irez donc, ou pas, visiter l'exposition L'art des studios d'animation Walt Disney, le mouvement par nature au musée Art ludique, et puis peut-être que vous aurez envie de revoir les films de Mickey. h 40 sur France Culture, vous écoutez Plan Large, et c'est l'heure de fureter du côté du patrimoine, en partenariat avec l'émission Grand Écran sur LCP, la chaîne parlementaire, émission qui rediffusera demain soir à 20h30 Les Heures Souterraines de Philippe Harel, d'après Delphine de Vigan, film suivi d'un débat sur le travail. On va vous faire travailler, Clément Safra, vous allez nous dévoiler dans quelques instants la face cachée de Mickey Mouse, mais avant cela, je vous ai demandé d'aller visiter pour nous cette exposition sur Walt Disney, qui dévoile pour la première fois en France, plus de 300 dessins préparatoires, 90 ans d'histoire des studios Disney, de Steamboat Willie au prochain Disney de Noël, Vaiana. Une exposition évidemment sous contrôle de la major hollywoodienne, on l'imagine bien. Mais alors qu'est-ce qu'elle nous raconte cette exposition, Clément Safra ?
L'exposition raconte, enfin, selon donc en tout cas son titre, l'idée que le mouvement est au centre de l'œuvre donc de Disney, ce qui semble naturel dans le cas du dessin animé, bien sûr. C'est vrai que il est question de croquis beaucoup. C'est ça le plus intéressant à mon sens dans cette exposition là. Mais c'est vrai que bon, le croquis chez Disney là qui est montré, c'est beaucoup les personnages humains, les personnages animaux anthropomorphes. J'irais peut-être un peu plus loin en disant aussi que finalement pour Disney le mouvement c'était en fait le monde dans son ensemble, et que les personnages ne sont pas les seules choses animées dans ces films, les objets aussi, des véhicules peuvent être animés, une porte de placard qu'on claque peut être animée, et c'est ça qui donne finalement toute la matière des films Disney et leur très grande capacité d'évocation.
Alors ce qui est très beau dans cette exposition, c'est qu'on voit les noms des personnes qui ont réalisé tous ces dessins. Hein. Si vous aviez besoin de vous convaincre que Walt Disney ne faisait pas tout dans ses films, loin de là, que c'était plutôt le grand chef d'orchestre de l'ensemble, tous les dessinateurs dont on a retrouvé les noms sont là. Et évidemment, Ubi Werks en premier, celui qui a créé avec Walt Disney le personnage de Mickey, puisque ce sont ses dessins pour Steamboat Willie qui ouvrent l'exposition, ce qui a dû vous faire plaisir. Clément Safra.
Je me suis arrêté là, je suis reparti.
Voilà, ben vous êtes resté, j'espère, longtemps dans cette salle qui est déjà très belle. Alors, tous ces dessins proviennent d'une sorte de caverne d'Ali Baba, la Walt Disney Animation Research Library, qui stocke les archives du studio depuis le début et qui permet aussi la transmission de cette expertise et de cette façon de faire du dessin animé. Et comme je savais que vous viendriez, Clément Safra, en visitant l'exposition, j'ai demandé à sa directrice, Mary Walsh, ce qui explique, selon elle, le succès immédiat qu'a rencontré Mickey dès le début dans le monde entier.
Ce qui explique cela, à mon avis, c'est que c'est un personnage tellement attirant. C'était le bon personnage au bon moment et au bon endroit. Mickey a fini par représenter Monsieur Tout-le-Monde. Tout le monde pouvait s'identifier à Mickey et à ce qui lui arrivait, qui correspondait au monde et à l'époque où il a été créé. Et il est devenu de plus en plus attirant au cours des décennies qui ont suivi. Et je crois que c'est vraiment ça. Quand on regarde Mickey, on veut qu'il soit notre ami. Et cette attirance est universelle. Elle n'est pas propre à une seule culture. C'est quelque chose qui touche le monde entier et c'est pourquoi tellement de gens aiment Mickey.
«
Alors l'explication que donne Mary Walsh, traduite par Pascaline Bonnet, c'est finalement assez proche de celle de Walt Disney, comment il décrivait son personnage, et que vous rappelez, Clément Safra, dans la face cachée de Mickey Mouse. Mickey, c'est un petit gars qui essaye de son mieux.
C'est vrai qu'il y a avant tout chez Disney, avec ce personnage en particulier, la volonté de séduire. Ça c'est sûr. Au-delà de ça, c'est vrai que pour Disney, l'idée c'est de rendre au dessin animé une place qui en fait l'égale du cinéma en prise de vue réelle, qui domine donc à Hollywood. C'est vrai que Walt Disney, son ambition est vraiment cinématographique. C'est un auteur de films, même si souvent les réalisateurs sont multiples. Walt Disney est le grand architecte et l'auteur de tout ça. Donc Mickey va devenir un personnage de cinéma, veut être un personnage de cinéma, il se mesure aux grandes stars en fait de son époque, et toujours avec par le prisme de l'humanité, ce qui est paradoxal dans son cas puisqu'il s'agit donc d'une souris, en tout cas vraiment dans les premiers films, et dans vraiment en faire ressortir l'humanité la plus profonde, et par le trait du rire de d'émouvoir donc le public.
Alors, on vous devait précédemment un dictionnaire Spielberg qui intéressera beaucoup nos invités réalisateurs de Willy Premier. C'était paru comme ce livre chez Vendémiaire. Qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé au personnage de Mickey d'un point de vue cinématographique? Qu'est-ce que vous êtes dit qu'il y avait un manque, qu'il y avait quelque chose qui n'avait jamais vraiment été analysé précisément?
C'est le seul personnage du cinéma classique hollywoodien que je connaisse qui est devenu une marque déposée. Déjà, ça s'en fait un cas tout à fait à part. C'est aujourd'hui le logo, en fait, hein, de la multinationale Disney. Donc, d'ailleurs, de ce point de vue-là, Mickey a, on peut dire, mauvaise presse, en fait, hein, pour les cinéphiles, a priori. C'est pas forcément l'expression de la plus grande créativité cinématographique.
C'est-à-dire qu'on le voit comme un produit avant tout.
On le voit même comme une sorte de logo, d'étendard des studios Disney. Derrière ça, il y a un projet de cinéma, parce que rappelez aussi que donc quand il voit le jour en 1928, il n'y a pas d'autre endroit pour voir les films que la salle de cinéma, donc c'est pas non plus un personnage de télévision comme ça peut l'être devenu par la suite. Voilà un personnage dont l'évolution m'a semblé très mystérieuse. Comment est-ce qu'on passe de Mickey Mouse, un triomphe de cinéma, à finalement un logo, trois cercles, une image, très désincarnée, unilatérale? Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moment-là. C'est vrai que si on reprend la métaphore du clown, on parlait de Pierre Etex tout à l'heure, Mickey commence auguste et il termine clown blanc. C'est vrai que Mickey au début se caractérise par sa grande irrévérence, un personnage assez négatif.
C'est un sale gosse,
capricieux, qui fait rire souvent aux dépens en fait des personnages qui l'entourent, et au fur et à mesure de sa très grande popularité, sans commune mesure en fait avec les autres stars hollywoodiennes même de l'époque, il va s'adoucir, il va devenir plus officiel, moins sarcastique. Et c'est vrai que ça va aussi le faire perdre de sa substance. Ce qui est tout à fait intéressant de découvrir, c'est que Walt Disney fait cette évolution tout à fait consciemment. Il choisit Mickey de le préserver. À mesure qu'il devient vraiment une icône, il devient aussi le logo de la société et il est vidé de finalement sa substance.
C'est ce qui fait, on en parlera peut-être tout à l'heure, que pendant la Seconde Guerre mondiale, quand tout le cinéma hollywoodien se mobilise pour appeler à la guerre et pour soutenir les armées, Donald le fera, mais pas Mickey.
Ah oui, Walt Disney est très très enthousiaste à l'idée de faire des cartoons anti-nazis. Le plus connu, le plus intéressant d'entre eux, c'est Der Führer's Face, donc il y a un film qui met en scène Donald. En fait, Donald, c'est le Mickey des débuts. C'est-à-dire que ce personnage hystérique, capricieux, comique, souvent aux dépens des autres, c'était le Mickey des débuts. Mickey, au moment où les États-Unis entrent en guerre, on est finalement à la fin de sa carrière classique. Disney va faire des films jusqu'à sa mort, en fait, en 66. Mais c'est vrai qu'il arrête la production des cartoons de Mickey bien avant, au début des années 50.
I can't give you anything.
Voilà, on chante beaucoup, on danse beaucoup dans les cartoons de Mickey. Je vous cite Mickey, un personnage dont la danse est une seconde nature. Alors ce qui est assez passionnant dans votre livre, c'est que vous montrez effectivement comment les cartoons de Mickey s'inscrivent dans le cinéma de leur temps et comment ce qu'ils doivent à la mécanique même du burlesque d'un côté, des films d'aventure de Douglas Fairbanks de l'autre. On entendait tout à l'heure Steamboat Willie, c'est évidemment une référence au chef-d'œuvre de Buster Keaton, Cadet d'eau douce en français. D'ailleurs, je signale la ressortie en version restaurée magnifique de 4 longs métrages de Buster Keaton chez Lobster en DVD, Les Trois Âges, Le Mécano de la Générale, Sportif par amour et Cadet d'eau douce. Alors tous ces films, Disney les montrait à ses animateurs pour qu'ils analysent comment ça marchait.
Absolument, c'est vraiment cette idée que Mickey devait pouvoir être l'égal de ces grandes vedettes. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ses premières aventures, ses premiers films sont vraiment les remakes, les caricatures des grands films de l'époque. Steamboat Bill Jr., mais aussi des films même plus tard, dans les années, début des années 30. Vous avez un petit remake de King Kong, vous avez un remake de Top Hat avec Fred Astaire. L'idée, c'est
vous
pas
avez
simplement.
Les savants fous de la Universal sont là aussi.
C'est ça, voilà, tout l'univers, en fait, hollywoodien, toute l'imagerie hollywoodienne est recyclée. Mais pas simplement, et même je pense pas du tout dans une volonté de la parodier, mais plutôt de se l'approprier dans un premier temps et ensuite de la dépasser, puisque Mickey, contrairement à ses homologues de chair et de sang, n'est pas contraint par les lois du réel. C'est-à-dire que quand Fred Astaire danse, malgré tout et malgré ses tentatives plus tard dans les années 50, il reste quand même au sol. Alors que Mickey peut très facilement s'élever dans les airs et devient du coup un héros surréaliste. Et c'est vrai que Mickey, c'est le grand personnage surréaliste hollywoodien donc de l'époque.
Congratulations, Mr. Mickey Mouse. Congratulations to you. Congratulations. Your picture show was fine. It's a hit, it's a hit. And we want to shake your hand. Congratulations, happy days to you. You sure brought down the house. And we hope you have a lot of success. Congratulations, Mickey Mouse.
You're wonderful. Wonderful, marvelous. I think I kiss you now.
Voilà, ces bisous, ce sont ceux de Greta Garbo, Mickey's Gala première 1933, 5 ans après sa naissance seulement, ça y est, non seulement Mickey est devenu une star, mais Disney joue beaucoup de ce statut de star, y compris dans la manière de le filmer, de le faire apparaître de façon retardée. On entendait tout à l'heure un extrait de Fantasia, ceux qui s'en souviennent se souviennent de l'ombre gigantesque d'abord de Mickey et le tout petit Mickey qui arrive après.
C'est ça, ce qui va apparaître finalement très très vite à Disney, c'est la dimension mythologique en fait de ce personnage et cinématographiquement, c'est-à-dire que comme on disait tout à l'heure, le personnage de comédie doit avoir une immédiateté visuelle. C'est le cas de Mickey. Mickey avec ses oreilles se découpe, etc. Comme ça, de manière très évidente. Et ça, Disney va en jouer extrêmement tôt et finalement va au point justement. C'est dans vraiment cette démarche de le faire devenir finalement. Plus que ce logo, plus que ces trois cercles, Mickey, en tant que personnage, va se fondre dans son ombre. Finalement, il va plus être vraiment que l'ombre en fait de lui-même, au point que on oublie tout ce qui en faisait l'humanité. Mais ça le porte à un stade qui est absolument unique, je pense, parmi les acteurs d'Hollywood, les stars d'Hollywood, si on accepte de le comparer avec elle, qui est vraiment celui d'une icône, presque une sorte de hiéroglyphe étrange derrière lequel on ne sait pas tellement ce qui se projetait, quelque chose de difficile à décrypter, bien que ce soit tellement, tellement familier et visible encore aujourd'hui.
Il peut y avoir même quelque chose de subversif chez Mickey, parce que si votre livre était sorti dans les années 70, La face cachée de Mickey Mouse, on aurait expliqué comment c'est un suppôt de l'impérialisme américain, du capitalisme le plus éhonté. Et vous rappelez qu'il y avait un fan de Mickey dans les années 30, il s'appelait Eisenstein, et lui, il voyait au contraire dans la figure de Mickey, je vous cite, un rempart contre la standardisation américaine, et je vous cite encore, l'existence même de Mickey est révolutionnaire en ce qu'il agit contre la logique, la raison et le consensus. Clément Safra.
Absolument, je crois qu'en fait le héros américain de cinéma, si on accepte d'oublier en fait des clichés comme l'impérialisme culturel, etc., ce qu'il représente, mais bon, peut-être que s'arrêter là est un peu dommage. En fait, le personnage de cinéma américain ne pouvait pas être autre chose qu'un héros d'animation, capable de tout faire, capable de transcender en fait le monde, de se transcender lui-même, de se transformer à l'infini, d'être une sorte de self-made man ultime. Qui, enfin, au contact duquel le monde évolue. Et c'est ça, je pense, que soulève Eisenstein de manière tout à fait brillante. C'est que l'idée de Mickey, derrière Mickey, c'est que le cinéma peut façonner un monde complètement propre à son image. Et Mickey en est vraiment l'expression la plus emblématique.
Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma, Hugo Thomas, je vous vois écouter. Une réflexion, une réaction, personnage de Mickey.
Je trouve que c'était vraiment une souris quand même très aimable, très généreuse. Je me rappelle quand même dans le Noël de Mickey, il faisait tout pour donner des cadeaux à ses enfants malgré ses faibles moyens, donc ça je tenais quand même à le souligner, et lui rendre hommage.
Mais c'est vrai que l'idée, au-delà de cette scène effectivement très touchante, l'idée que Mickey est un personnage aimable, au-delà de ça, il est vraiment conçu pour être le plus séduisant possible, presque dans un sens biologique, comme je l'aborde dans un passage du livre. Son visage va évoluer, les traits, parce que c'est aussi le seul héros hollywoodien qui ne vieillit pas, mais qui évolue, et qui évolue finalement dans une complètement au gré de son auteur. Les traits de Mickey Mouse vont évoluer. Même s'il y a toujours eu ces trois cercles, finalement, le personnage va devenir de plus en plus rond, de plus en plus poupon,
de plus en plus enfantin
et infantile, alors que son caractère, paradoxalement, va devenir de plus en plus mature. Et c'est ça qui va créer, au terme de sa carrière classique, une sorte de personnage un peu hybride, une sorte de bébé donneur de leçons assez étrange. Donc il faut faire le flashback et redécouvrir ce qu'il y avait avant.
Alors tous ces films sont disponibles en DVD, très bien restaurés par Disney. Un film dans cette série de cartoons Mickey qui serait votre préféré ?
Je dirais l'extrait de Fantasia qui est l'apprenti sorcier qu'on a écouté, puisque c'est là qu'on trouve, bien que ce soit aussi la fin de sa carrière, le Mickey enfantin, celui qui fait une grosse bêtise et qui à la fin reçoit d'ailleurs une condamnation de la part de la figure d'autorité, le magicien. Et dans ce film, il y a aussi toute la mise en scène de ces trois cercles, cette ombre, qui est tout à fait extraordinaire à voir.
Quelques notes du disque hommage à Woody Allen, All My Life, sorti chez Jazz and People. Le pianiste Laurent Courtaliac et son octet seront en concert jeudi et vendredi au Sunside, rue des Lombards, à Paris. Merci beaucoup Clément Safran, on n'a abordé que quelques-unes des pistes passionnantes que vous arpentez dans la face cachée de Mickey Mouse aux éditions Vendémiaire. L'exposition Disney, c'est jusqu'au 5 mars au musée Art Ludique à Paris. Exposition accompagnée d'un très beau catalogue. La rétrospective et l'exposition Jafar Panahi, c'est jusqu'au 13 novembre au Centre Pompidou. Je vous rappelle la rencontre virtuelle avec le cinéaste aujourd'hui à 17h. Merci Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma et Hugo P. Thomas. Longue vie au roi Willy Ier dans les salles depuis mercredi. À la technique aujourd'hui, Bruno Gagnère et il y avait aussi Stéphane Beaufils à Beaubourg. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somanina. La semaine prochaine, trois cinéastes hors normes, encore une fois dans plan large. Wang Bing, dont le nouveau et très beau documentaire Taang sort en salle mercredi prochain, Albert Serra qui viendra nous parler de la mort de Louis XIV, et puis Wes Anderson évoqué pour nous par Marc Cerizuelo qui lui a écrit une fort belle lettre.